carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Corinne Bellier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir à la Cité de l'Architecture. Vous êtes conservateur du patrimoine et vous vous occupez ici de la galerie d'architecture moderne et contemporaine. Avant de circuler dans cette galerie, pourriez-vous nous rappeler ce qu'on appelle architecture moderne et architecture contemporaine ?
La galerie d'architecture moderne et contemporaine, il faut le dire, est une nouvelle création de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. En fait, nous avons souhaité prolonger le parcours et traiter l'architecture à travers le 19e et le 20e siècle. Et pour être plus précis encore, en fait, nous couvrons la période 1851. La galerie s'ouvre avec le Crystal Palace de Londres et les transformations de Paris d'Haussmann. Donc 1851-1853, milieu du 19e siècle. On couvre pour le parcours permanent jusqu'aux années 2001 à peu près et s'adosse à cela une exposition temporaire que nous renouvellerons régulièrement pour voir l'actualité la plus récente. Donc compter à partir du milieu du 19e siècle.
Et nous allons commencer par les immeubles haussmanniens.
Oui, alors le point fondateur en fait de la galerie, je crois, et ça c'est le plus important, c'est qu'en fait, pour nous, à partir du 19e siècle, l'architecte travaille pour le plus grand nombre. Et c'est ce qu'on a souhaité mettre en avant à travers tout ce parcours qui est organisé par thème. Et dans ce parcours, en particulier l'habitat, et l'habitat collectif plus précisément, est l'un des plus gros thèmes et l'un des plus importants. C'est l'un des endroits où on a les plus grandes recherches à travers le 19e et le 20e siècle. Alors la galerie s'ouvre sur le Paris d'Haussmann, dont vous voyez la très grande maquette ici à l'entrée. Donc à partir de 1853, le baron Haussmann va être nommé préfet de Paris et va mener toutes les transformations que l'on connaît, certes les percées, certes les équipements comme les gares, les marchés, les places, mais surtout, c'est une très grande transformation aussi sur l'habitat. C'est donc le modèle de l'immeuble haussmannien qui va se répandre d'abord à Paris et ensuite à travers la France. Et on voit à travers cette maquette, je crois, et toutes les transformations qui sont apportées à la ville, la manière dont l'architecture et la société sont extrêmement liées. C'est un de nos thèmes forts, l'un des fils conducteurs de la galerie, de montrer comment parfois l'architecte, en tout cas, suit, si ce n'est devance, parfois les besoins de la société, qu'ils soient en matière d'habitat ou d'équipement. Donc nous pouvons nous rendre pour voir la maquette, la première maquette en fait, de la section sur l'habitation. À vrai dire, toute la galerie présente des architectures qui sont souvent des références, des architectures exceptionnelles. L'immeuble haussmannien est en quelque sorte une architecture, on va dire, plus standard. C'est un modèle et en ça, il a été répété à de multiples reprises. L'immeuble que nous avons choisi ici de présenter est un immeuble qui se trouve à l'entrée du boulevard Saint-Michel, qui a été réalisé par Gustave Lecomte. Il est daté 1860. On voit très bien, en fait, dans ce modèle d'habitat, comment, d'une part, l'immeuble traduit une certaine hiérarchie sociale avant la présence de l'ascenseur. Donc, en fait, l'étage noble et le premier étage au-dessus de l'entresol. Et on voit aussi, en fait, on retrouve cette distribution, en fait, de l'appartement que l'on présente dans une maquette de détail, une maquette d'appartement qui distingue de manière très nette les espaces publics, l'enfilade publique sur la rue, avec le salon en particulier, la salle à manger, les alcôves, et puis les espaces privés ou les espaces servants qui sont à l'arrière sur cour, les chambres, l'office, cuisine. L'immeuble haussmannien, c'est un immeuble qui construit la ville en fait et qui rassemble plusieurs fonctions. Certes, c'est de l'habitat, mais il y a toujours le commerce dans l'immeuble, le commerce à rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée.
Oui. Et ça va être une question qui va courir à travers tout le 19e et le 20e siècle, enfin depuis le début de la réflexion d'ailleurs sur la ville, qui est l'association ou la distinction entre les fonctions qui peuvent être celles du commerce, celles de la rue et puis celles de l'habitation à proprement parler. Donc au fur et à mesure que nous allons avancer dans le parcours, nous allons voir ces fonctions tantôt groupées, tantôt volontairement séparées les unes des autres.
Et au-dessus, donc, les chambres de bonne.
Voilà, au-dessus, les chambres de bonne dans les combles. Et on a édité au 19e pas mal de gravures qui étaient très drôles, à vrai dire, où vous avez ces coupes sociales à travers l'immeuble haussmannien et on voit les différentes familles à chaque niveau. La grande bourgeoisie à l'étage noble et au fur et à mesure qu'on monte, on a des familles de plus en plus modestes. Et dans les combles, cette vie de bohème qui a été dépeinte, que ce soit pour les artistes, mais qui ne devait pas être très drôle néanmoins.
Ce qui est assez amusant, c'est que donc au dernier étage, tout au-dessus, se trouvent les chambres de bonne, donc avec un niveau social moindre par rapport à la bourgeoisie ou autre. Aujourd'hui, être à un étage élevé d'un immeuble, au contraire, est d'autant plus intéressant. Oui. On a inversé un peu les situations.
Absolument. Et là, vous nous amenez donc à notre deuxième exemple, en fait, qui est l'immeuble de la rue Franklin, qui a été bâti alors par les frères Perret, les frères Auguste et Gustave Perret, qui sont vraiment deux figures fondatrices de l'architecture du XXe siècle, en particulier pour leur usage du béton armé. Vous m'y amenez parce que précisément cet immeuble-là est un immeuble où l'ascenseur est présent. Et donc en fait la hiérarchie de l'immeuble s'inverse quelque peu puisque l'appartement le plus noble est celui qui occupe les terrasses en hauteur avec des vues magnifiques sur la Seine et les jardins du Trocadéro. C'est un immeuble qui a fait fortune, on va dire, en histoire de l'architecture à plusieurs titres. Du point de vue constructif, c'est l'un des premiers immeubles à utiliser une structure en béton armé. Ainsi, il n'a pas de mur porteur très épais. Il permet de dégager un maximum de place à l'intérieur du plan de chaque appartement. Il est néanmoins à cette époque-là revêtu d'un décor de céramique vernissée, enfin de bigoquet magnifique, en feuilles de châtaignier. C'est quelque chose de toute beauté, vraiment. On est vraiment au tournant du siècle. On est en 1903, 1904, donc à une période où on n'hésite pas à orner l'immeuble. Mais ce qui est le plus important peut-être pour cet immeuble, c'est que les frères Perret travaillent sur une parcelle qui est assez particulière, elle n'est pas très profonde. Et les règlements parisiens imposaient des cours intérieurs d'immeubles pour éclairer les pièces de service, cuisine, WC ou chambre. Ici, les frères Perret vont inverser la donne, n'ayant pas énormément de place à l'arrière, ils vont en quelque sorte placer la cour sur l'avant de l'immeuble, c'est-à-dire qu'en fait ils vont plisser la façade. Et c'est ce que la maquette rend, et c'est ce que rend en particulier le plan de l'appartement. Vous avez une façade qui se déploie non pas simplement parallèle à la route, mais elle est véritablement plissée et permet d'introduire davantage de lumière et plus profondément dans les pièces principales de l'immeuble. Par contre, pour ce qui est de l'organisation en fait, de l'appartement lui-même, le système reste assez conventionnel. En fait. On retrouve le système d'enfilade sur rue et on retrouve les pièces principales en fait, sur rue. Ce tour de force, si vous voulez dire, architectural sur la parcelle, c'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs reprises au cours du XXe siècle.
Alors justement, nous allons poursuivre au XXe siècle. On va avancer dans les années 30, peut-être même avant, où il va y avoir un cahier des charges peut-être plus strict encore pour les architectes.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un immeuble qui poursuit cette réflexion sur la parcelle, mais alors selon une autre approche. C'est un immeuble qui a été construit effectivement par Pierre Patou, boulevard Victor. Donc, c'est à l'autre bout de la galerie. Donc
à Paris, boulevard Victor à Paris.
Oui, boulevard Victor à Paris.
Grand-maman, c'est New York. C'est New York, je vois les bateaux remorques. Grand-maman, c'est New York. Je vois les bateaux dans le port de New York. Les mouettes me font bonjour dans le ciel. Je vois les jolies mouettes. Les mouettes me font bonjour. Et je sens en moi de longs frissons d'amour.
Dans les années 30, le style paquebot et l'engouement pour les paquebots est à son plein. Les grands paquebots tels que le Normandie traversent l'Atlantique, font des arrivées remarquées aux États-Unis.
L'époque des grandes croisières.
Oui, oui. En fait, qui font partie des actualités Gaumont-Pathé que l'on voit dans les journaux aussi. Ce point-là est important. Donc, c'est une époque où en fait, le style paquebot va apparaître et va se diffuser. Donc il y a une esthétique paquebot qui se met en place. Cet immeuble en est le reflet. Il faut ajouter aussi que Pierre Patou est un architecte qui a lui-même travaillé pour les décors intérieurs de paquebots. Donc on trouve une conjonction à la fois de l'époque et à la fois de cet architecte même qui est à la fois architecte d'immeuble mais aussi architecte de paquebots. Il a travaillé sur le Normandie, sur l'Île-de-France, sur plusieurs paquebots. Alors l'immeuble a été construit entre 29 et 34 et on remarque particulièrement pour ce qui est de cette esthétique, le jeu des différentes terrasses. L'immeuble est très mince, la parcelle était très mince et je reviendrai là-dessus. Mais on a un jeu de terrasse et de figures de proue où l'immeuble en fait fend la ville à la manière d'un navire. On retrouve les différents ponts, comme à l'arrière du Normandie. On retrouve des jeux de cheminées en hauteur. On retrouve même certaines fenêtres qui prennent la forme de hublots. On retrouve aussi le côté très allongé et très fin en fait de l'immeuble à la manière d'un navire. Donc il y a une esthétique en fait qui est une esthétique paquebot et qui va se répandre. On la trouve à la fois dans les écoles, on la trouve dans des immeubles d'habitation, on la trouve dans toute une architecture de cette époque-là, y compris d'ailleurs en art décoratif énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la réflexion sur l'analogie avec le paquebot n'est pas seulement esthétique. L'analogie avec le paquebot, c'est aussi un modèle d'organisation. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on commence à faire la comparaison avec le paquebot, qui est une ville flottante, une ville autonome, un immeuble autonome, si vous voulez. Et on le voit en particulier dans les journaux et les coupes de paquebot qu'on a pu mettre en vitrine pour accompagner la maquette en question. Ces journaux, en fait, font la comparaison entre le paquebot et un quartier de ville. Et chez Patou, on retrouve alors cette idée-là, puisqu'en fait, la parcelle était tellement étroite, elle n'était guère constructible, et c'est en employant le modèle en fait des cabines, d'une distribution en cabines de bateau desservie par des coursives, qui se traduit ici dans cet immeuble avec des studios et des duplex uniquement desservis par des coursives, que Patou en fait arrive à rentabiliser une parcelle, c'est-à-dire il achète la parcelle, il construit son immeuble, il construit son appartement, et donc certaines des parties de l'immeuble sont, enfin c'est un immeuble de rapport pour partie, son logement pour d'autres. Mais il arrive à ce tour de force vraiment parce qu'il a ce modèle d'organisation qui est celui compact du paquebot. Et on peut aussi dire en fait que le modèle du paquebot donc va courir en architecture et va être pris par exemple par Le Corbusier. Il y a des dessins en fait de Le Corbusier où il met en rapport des coupes de paquebot, des coupes faites par les compagnies de navigation et l'immeuble, comme l'unité d'habitation de Marseille et l'immeuble, pour mettre en rapport ce côté autonome en fait de l'immeuble qui a à la fois des appartements, des cabines, et aussi des espaces communs, des espaces, des services à l'intérieur de l'immeuble. Donc c'est une métaphore qu'on va retrouver énormément, celle où l'immeuble d'habitation peut être encore plus qu'un simple immeuble, peut avoir des services, peut-être desservi, peut-être un morceau de ville. C'est quelque chose qui va courir tout au long du XXe siècle.
Et là, dans cet exemple, ça reste des appartements petits, entre guillemets, où il y a des familles, certainement, mais pas des grandes familles. Alors justement, comment va s'organiser l'habitat pour ces familles qui sont plus nombreuses ?
Alors là, vous touchez, vous mettez le doigt sur la question de l'habitation sociale. Donc la question qui se pose de manière récurrente depuis le 19e siècle, c'est quid du logement ouvrier, quid des classes ouvrières ? Au cours du 19e siècle, différentes opérations sont parfois lancées par le patronat. Enfin, on peut citer la cité ouvrière de Mulhouse, qui est en fait une cité avec des petites maisons. Au 20e siècle, va progressivement se poser la question d'un logement en fait social financé par les offices publics. Et en particulier autour de Paris, l'office public de la Seine va lancer un important travail sur les cités-jardins. Progressivement, alors cité-jardin qui part initialement du modèle de la petite maison et qui peu à peu évolue vers le modèle de l'immeuble et de la barre, et c'est-à-dire vont annoncer tout ce qui va se construire après-guerre. Donc la cité de la Muette fait partie de ces campagnes en fait de création de cité-jardin autour de Paris par Henri Sellier. Elle a été construite par deux architectes, Jeanne Baudouin et Marcel Lodz, qui sont des architectes qui ont vraiment fait la promotion de l'industrialisation du bâtiment. Et alors l'idée qui est derrière, c'est que là où l'industrie automobile a réussi, il n'y a pas de raison que le bâtiment ne réussisse pas. C'est-à-dire que si par la série, par le standard, par la répétition d'un même module dans l'industrie automobile, on peut fournir une voiture à un prix abordable à tous, de la même manière, l'industrialisation du bâtiment doit permettre de construire du logement en quantité suffisante pour répondre à la demande. Et il faut rappeler que pendant toute la période des années 20 et des années 30, la question des mal logés est une question récurrente. Les abords de Paris, la banlieue, ce sont des lotissements non équipés, non raccordés, parfois des maisons construites avant que les égouts soient là, avant la voirie. Enfin, donc une situation décrite par la presse comme une question de vraiment une situation de pagaille. Et donc l'État va chercher à mettre un certain ordre là-dedans. Et il est de plus en plus nécessaire de construire et de construire en grand nombre et de construire de manière rationnelle. Alors, la Cité de la Muette est, de ce point de vue-là, un exemple phare dans l'histoire de l'architecture, parce qu'en fait, c'est la première fois que l'on essaye véritablement de mettre en place les méthodes de Taylor, à savoir l'organisation scientifique du travail, avec un travail à la chaîne, et avec surtout, en fait, une standardisation des éléments. Donc, la maquette que vous voyez en salle vous présente en tableau les quelques éléments, il n'y en a pas beaucoup, ça se voit en béton armé, quelques éléments standards qui permettent de construire cette immensité, puisqu'en fait, c'était quand même une cité de 1200 logements. Donc, un nombre limité d'éléments étudiés à l'avance, en amont, en usine. Alors ça, c'est assez différent, j'insiste là-dessus, par rapport à la pratique du chantier habituellement à cette époque-là, c'est-à-dire, en fait, lorsque le chantier se déroule sur place, énormément de choses se décident, se montent sur place, le mur se monte sur place, on ajuste sur place.
Mais c'est préfabriqué.
Oui, et là, lorsqu'on est avec des éléments préfabriqués, comme dans l'industrie, c'est important en fait que tout soit étudié avant et avec la plus grande précision, parce que les éléments ensuite arrivent livrés avec leurs trous d'assemblage et doivent s'ajuster impeccablement les uns par rapport aux autres. Et c'est en cela que le chantier va avoir une grande réputation, il va être publié, il va être largement publié. C'est aussi intéressant, en salle vous trouvez un de ces rares films de ces époques-là qui présente le chantier. Ce sont des extraits de Construire qui a été filmé en 1934 par Edmond Flory, la cité elle-même ayant été construite entre 1931 et 1935. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit bien donc cette préfabrication et on voit aussi son côté finalement artisanal par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, ce qui est important aussi à rappeler, sur place, on avait 3 usines de préfabrication. Ce qui est peut-être important là dans tout ça, c'est que le but en fait de cette industrialisation, c'est encore une fois d'apporter, de construire un maximum de logements et d'apporter la meilleure qualité à tous. Et ça, je crois que c'est important parce que l'industrialisation du bâtiment a souvent été critiquée pour ce qu'elle a pu produire aussi après-guerre. Néanmoins, le but initial, c'est un but de qualité. C'est un but qu'on va retrouver plus tard quand Beaufil travaille en fait sur ses différents édifices. Il insiste énormément sur la qualité en fait des bétons et la qualité du logement qu'on peut offrir. Mais dès la Cité de la Muette, en fait, Baudouin et Lotz, ne serait-ce que par le fait d'utiliser des galets de marbre qui sont inclus dans les éléments préfabriqués de béton, cherchent à créer une architecture de qualité, aussi bien dans sa distribution intérieure que dans son apparence et son esthétique extérieure.
Là, c'était donc, comme vous l'avez précisé, dans les années 30, 1931 jusqu'à 1935, est arrivé l'épisode de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le camp de Drancy, ça a servi aussi à cet épisode.
Absolument.
Est-ce que justement, après cette période-là, est-ce que ça n'a pas fait réfléchir les architectes pour essayer peut-être de faire des grands espaces, mais peut-être moins importants que celui de la Cité de la Muette ?
Alors, ce qui va se passer dans l'immédiat après-guerre, c'est qu'il faut rappeler que la priorité nationale est donnée à l'équipement, à l'industrialisation, à la reconstruction du pays du point de vue industriel. Donc on a une crise du logement qui est sans précédent. Et c'est en particulier, nous le montrons en salle, en particulier avec un film en fait de l'abbé Pierre, où l'abbé Pierre lance son appel en 54 en faveur des mal logés. Et par exemple, Jean Prouvé répond par des propositions de maisons industrialisées, légères. Cette fois-ci, il s'agit de préfabrication légère, c'est-à-dire qui peuvent être montées très rapidement, qui ne nécessitent pas de moyens de levage importants et qui sont aisément transportables. Après-guerre, on a cette situation d'urgence et on va avoir tout un travail sur l'habitat d'urgence pendant un certain temps. Et en parallèle, le ministère de la Reconstruction va progressivement évoluer d'une politique qui s'interrogeait, est-ce qu'il faut construire des maisons ou est-ce qu'il faut construire des bars et des immeubles. À Noisy-le-Sec, on va avoir une cité expérimentale en petites maisons. Bientôt à Strasbourg, la cité Rotterdam est la première grande cité construite, là encore, en utilisant la préfabrication, mais on ouvre le chantier là du logement collectif. Le ministère fait le choix du logement collectif. Et on montre en salle un film qui est aussi un film rare, qui date de 1958, qui s'intitule Le mur en 4 heures. C'est un film de propagande, donc il a été réalisé assez tardivement, mais c'est un film de propagande par le ministère où la remarque importante, ou la citation importante, c'est « loger, c'est construire, construire, c'est industrialiser ». Et c'est préfabriqué. Et donc on a toute la logique en fait de la reconstruction française et de la période des architectures de la croissance qui est annoncée dans ce film qui met en parallèle la rapidité de montage des bars. On voit vraiment dans le film des camions qui livrent des pans de murs entiers, qui livrent des planchers en entier, qui livrent des... On voit des bâtiments qui s'échafaudent à une vitesse très impressionnante. Et on a aussi des images qui clairement font le rapport avec la série automobile et l'industrie. Donc ce film de propagande est très symptomatique de toute cette ère qui s'ouvre et qui, chez nous, débouche, et c'est vraiment assez spécifique à la France, débouche sur d'une part la reconstruction et d'autre part ce qu'on va appeler tous les grands ensembles.
Nous sommes à côté du quartier Antigone à Montpellier, c'est ça, le quartier du Nombre d'Or. Ce sont aussi des logements sociaux.
Oui, ce qui est très intéressant avec le quartier Antigone à Montpellier, c'est que donc, d'une part, Ricardo Beaufil travaille un logement dans le sens de la qualité, mais aussi il utilise la préfabrication à contre-courant de l'esthétique habituelle que l'on a donnée aux grands ensembles. C'est-à-dire ce ne sont pas des barres et des tours carrées, c'est un véritable ensemble urbain avec une place, et en plus il emploie des éléments qui font référence à l'architecture classique, certes avec un tout autre vocabulaire, mais enfin bon, on retrouve les entablements, les grandes colonnes, et donc il y a là un clin d'œil, ou plus qu'un clin d'œil, à toutes les possibilités finalement de la préfabrication. Il faut dire une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, les immeubles sont largement préfabriqués. La question de la préfabrication se pose même plus d'une certaine manière, parce que l'essentiel des composants des immeubles et beaucoup d'éléments de façade sont des éléments fabriqués en usine, préfabriqués, acheminés sur site et montés sur place.
La notion d'esthétique est-elle aussi une notion de coût ? Là, à l'instant, on a quitté la cité Antigone à Montpellier. Juste avant, on parlait de Drancy. Drancy, c'est quand même des grandes barres, c'est assez simple. Et à côté, donc, le style néoclassique, si j'ose dire, de Ricardo Beaufil. Est-ce que c'est une notion de coût ? Est-ce qu'il y a une question de coût sur le travail de l'esthétique ?
En fait, ça ramène aussi à une question un petit peu plus générale sur le XXe siècle, sur la question de l'ornement aussi, parce que l'esthétique, en tout cas pour le grand public, il y a deux choses. Il y a d'une part une question de forme et de volume, et ça, on voit à travers toute la période que le travail sur la forme reste entier. Et par contre, la question de l'ornementation de la façade est une question qui, elle, connaît des évolutions assez remarquables au cours du XXe siècle. Parce que, comme je vous ai dit, l'immeuble Franklin, on était sur un immeuble orné. Bon, au début du siècle, Adolf Loos nous lance son cri « l'ornement est un crime ». Et donc, ça ouvre la porte à toute l'architecture moderne avec les façades blanches, les cubes blanches en quelque sorte. Cette architecture moderne se poursuit en particulier dans les années 50 avec les grands ensembles qui ne sont pas des ensembles ornés. L'ornement, si vous voulez, est celui des pleins et des vides, en fait, du rythme de la façade. Dubuisson, lorsqu'il travaille sur l'immeuble de la Caravelle, Jean Dubuisson, ou lorsqu'il travaille à Paris sur l'immeuble de la rue du Commandant Mouchotte, ce sont des immeubles très graphiques, en fait. Le travail sur la façade est celui d'un rideau graphique. Alors la question des coûts n'est jamais négligeable en matière de logement social, elle est même fondamentale. Et c'est vrai que certains architectes vont vraiment insister sur le fait que finalement un beau logement, c'est un logement qui offre un maximum de place à son utilisateur avant toute chose. Nous sommes face à 5 édifices que nous avons sélectionnés parmi beaucoup d'autres sur la question du grand immeuble, des architectures de la croissance. On est donc sur, en gros, la période du milieu des années 50 jusqu'au premier choc pétrolier, donc jusqu'en 74. C'est une époque où, en France, l'immeuble va être un morceau de ville. En fait, c'est très significatif par rapport à l'immeuble haussmannien qui... qui est un immeuble, les grands ensembles sont des quartiers entiers, voire parfois des mégastructures, sont des petites villes en soi. L'immeuble peut être une petite ville en soi. Et on retrouve toute cette réflexion sur le paquebot d'ailleurs, l'immeuble autonome. Alors, nous, on a surtout cherché à montrer un peu les différences d'approche à travers quelques exemples. D'une part, le travail de Jean Dubuisson. Jean Dubuisson a travaillé sur la barre en particulier, et on montre l'une des plus importantes, la Caravelle, qui est construite à Villeneuve-la-Garenne entre 59 et 67. La Caravelle se démarque comme un quartier de ville, se démarque aussi par son travail sur la façade et son travail aussi de distribution intérieure qui est très intéressant. C'est un immeuble qui est déjà d'une grande taille. Oui, on est à 1630 appartements. Et c'est un immeuble qui combine une variété d'appartements, du studio aux 5 pièces, donc en fait qui voulait combiner une variété de populations. Avec les courtières, on aborde le travail d'Émile Layot, qui va travailler à Pantin, qui va travailler sur la Grande Borne à Grigny. Les courtières sont particulièrement remarquées ou remarquables. Layot, en fait, va chercher à s'affranchir de la barre, en tout cas de la barre rectiligne, à travailler des jeux de courbes, et surtout va offrir à ses habitants un énorme parc. Le morceau de ville, c'est le parc, en fait, qui est à l'intérieur, enserré par ses immeubles, et qui est réellement très apprécié par ses habitants.
Est-ce que ça ne referme pas justement une certaine population entre elles? Je prends l'exemple des courtières, par exemple. On a une photo, une vue aérienne. Est-ce que ce n'est pas renfermer la population sur elle-même?
Mais ça, c'est l'objet du débat actuel, en fait, sur faut-il ouvrir ou pas l'immeuble des courtières. Les points de vue sont divergents et c'est d'ailleurs actuellement à l'étude entre le ministère de la Culture, la mairie, les habitants aussi. Je dois avouer avoir lu vraiment les deux points de vue, hein, avoir lu des propos d'habitants pour qui le parc était quelque chose de fondamental. Et souvent, en fait, aussi, ce qui se passe pour les grands ensembles, ce qui est difficile, c'est que la question du cloisonnement d'un quartier repose parfois moins sur la forme architecturale que sur le degré des équipements, sur le degré d'entretien, est-ce que les choses ont été entretenues, sur la manière dont la population a vieilli ou a été renouvelée, quelle a été la politique des bailleurs, donc sur beaucoup de considérations qui relèvent vraiment de la politique du logement. Hein. Donc c'est assez délicat, je trouve, à chaque fois de voir quelle est la part, on va dire, imputée ou imputable à l'architecture et quelle est la part peut-être imputable à quelque chose de plus politique, qui relève plus de la politique urbaine. Ce qui est frappant, en fait, dans ces immeubles, sur ces périodes-là, c'est que le logement est dissocié du commerce, en fait. Il n'entrait pas dans les missions des offices d'HLM de construire du commerce. En conséquence, on a perdu la rue sur cette époque-là. C'est à la fois l'héritage du mouvement moderne et du zoning des quartiers où on essaye de séparer les fonctions. Il y a un aspect positif qui était de vouloir créer des espaces verts, des espaces dégagés, des espaces où on puisse avoir des activités. On sait aujourd'hui que ça n'a pas tellement marché, que ces espaces vides sont souvent des espaces que l'on n'a pas réussi vraiment à occuper. Mais ça pose vraiment la question du rapport entre les transports, les commerces et l'habitation dans un quartier de ville, surtout quand l'immeuble est à la taille d'une ville. À Toulouse, le Mirail, en fait, qui est l'exemple suivant. Alors, il y a plusieurs types d'immeubles, on est à une toute haute échelle. Hein. Là, on est vraiment, c'est un quartier, on est à 25 000 logements. Donc, vous voyez, par rapport aux 1600 dont on parlait avec Dubuisson, on n'est pas sur la même échelle.
Avec des coursives qui sont des rues, véritablement.
Oui, en plus. Alors, ce qu'il y a à Toulouse, le Mirail, c'est que Candilis va travailler plusieurs types d'immeubles. Hein. Il y a les grands immeubles qui sont une ville continue, avec des coursives, comme vous le dites, à l'intérieur de l'immeuble, qui fait qu'on pourrait circuler à travers la série d'immeubles, passer d'un côté à l'autre du quartier, par des rues suspendues. Puis il y a aussi des petits quartiers de maisons individuelles. Et dans la ville, il y a aussi centres commerciaux, écoles, etc. Cependant, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vrai que les équipements ne sont pas là dans l'immeuble. Donc on a encore cet héritage différent de la ville traditionnelle haussmannienne. Et dans les deux derniers exemples, en particulier à Ivry-sur-Seine avec les étoiles de Renaudie, c'est un tout petit immeuble, proportionnellement, qui s'inscrit dans un travail plus important sur la rénovation du centre-ville d'Ivry. Mais l'immeuble lui-même ne fait que 300 logements à peu près. Renaudie a essayé, en adoptant un plan en étoile, d'offrir à ses habitants, d'une part, l'absence de vis-à-vis et d'autre part, tout un jeu de terrasses suspendues. La grande force de ces appartements, c'est d'offrir les terrasses suspendues, des loggias qui sont le prolongement en fait, du logis, comme disait Corbu. Et ce sont aussi des immeubles dans lesquels on commence à retrouver une mixité de fonctions. Alors, Certes, il faut rappeler qu'on est en centre-ville, on est au cœur d'Ivry, donc c'est une localisation différente. C'est peut-être pour ça qu'on revient plus vite à cette mixité de fonctions ou qu'on ne l'abandonne pas. Et l'idée des terrasses suspendues, on les retrouve aussi en parallèle à Ivry. Donc Andrew et Para ont travaillé en fait sur l'idée des maisons-jardins, des immeubles-jardins, dans pas mal d'endroits différents. Et à Ivry, c'est peut-être un des plus grands. Donc c'est un immeuble pyramide. Le principe de la pyramide qui avait été initié par Henri Sauvage, dont on a une maquette aussi d'immeuble à gradins juste avant guerre, permet d'une part de faire entrer plus de lumière, permet de créer des terrasses, quelque chose d'unique. En fait, chaque maison ou chaque appartement a son jardin. Et donc une absence de vis-à-vis, une certaine intimité dans la collectivité, dans ces immeubles, dans cet immeuble-là.
Et en revenant sur l'immeuble en forme d'étoile, enfin étoilé, on retrouve certains points de l'architecture moderne, les pilotis, les jardins suspendus, et des grands espaces vitrés également.
Oui, c'est vrai. Dans les films qui montrent ces immeubles à l'époque, en fait, parce qu'on a mis en salle quelques films, c'est vrai que la fenêtre vitrée, la baie vitrée, chez André Parra, c'est quelque chose de très appréciable. Il y a vraiment cette continuité entre l'intérieur et l'extérieur du logement, qui est quelque chose d'unique. Et qu'on va retrouver un petit peu plus tard chez Jean Nouvel, d'ailleurs.
Alors justement, nous allons avancer vers la tour de Jean Nouvel.
Après les grands ensembles, la rupture, c'est 75, pour faire simple. En fait, 75, c'est la date à laquelle Christian de Porzamparc, Georges Abenamo vont livrer l'immeuble vont créer l'immeuble des hautes formes, donc qui sera livré en 79. C'est un immeuble en plein cœur de Paris, juste à côté de Tolbiac. On est à une toute autre échelle, on est à 200 logements HLM. Et ce qui est important, c'est que d'une part, on arrête la politique des grands ensembles. Il y a rupture d'échelle, on revient à des opérations de plus petite taille. D'autre part, on revient à une idée de quartier. C'est-à-dire qu'en fait, pour construire 200 logements, Christian de Porzamparc aurait pu adopter, une barre, une tour, quelque chose. Non, il décide en fait de fractionner l'immeuble en plusieurs immeubles pour retrouver l'esprit de quartier, l'esprit de ville, où en fait ce qui compte pour chaque habitant, c'est d'avoir un lieu qu'il puisse identifier comme étant le sien. À l'intérieur de cet îlot, il crée un square qui est le centre convivial, en fait, le point de rencontre en fait des trois immeubles qui composent l'ensemble. Et cet immeuble va vraiment marquer en fait à l'époque, il va être compris comme l'annonce d'un retour à la rue.
Les maquettes, à chaque fois, font référence le plus souvent des immeubles à Paris. C'est à Paris qu'il y a le plus de... Je ne vais pas dire de réflexion, parce que ce n'est pas le cas, mais est-ce que c'est à Paris qu'on a le plus d'espace pour pouvoir travailler?
C'est vrai qu'en fait, là, sur la question de l'immeuble collectif, on est beaucoup autour de Paris. Les grands ensembles, c'est énormément une question en fait, parisienne, hein, proportionnellement. Pour le reste, ce n'est pas toujours le cas. Bon, quand on parle de l'immeuble qu'on a choisi de mettre en avant pour Jean Nouvel, se trouve à Nîmes. C'est le Nemosus. On est là sur du HLM. Ce sont deux immeubles, deux petites barres, mais qui en fait ne ressemblent en rien à des barres.
Justement, donc une architecture très particulière. Oui. On dirait une usine. Quels sont d'ailleurs les matériaux qui sont utilisés là?
En fait, à la base, la structure est très simple. Hein. La structure est en béton et c'est un système en fait de poteaux et puis de dalles superposées. Le point important, est-ce que dit Jean Nouvel dans un interview qui était publié, qui était dans le film qui a été fait sur le Nemosus par les films d'ici, par Richard Coppens, Stan Neumann, qui est vraiment un très beau film. Jean Nouvel insiste sur le fait que ce qu'attend un habitant, ce que l'on peut offrir de mieux dans le logement social, c'est de l'espace. Et donc lui, ce qu'il a cherché à faire, c'est d'offrir le maximum d'espace. Et ça se retrouve dans cette idée où le logement se prolonge sur les coursives et se prolonge sur les terrasses de l'autre côté. Donc si vous voulez, pour l'intérieur de l'immeuble, la réflexion, c'est le mélange de types d'appartements. On a des studios, des duplex, on a même quelques triplex. Des volumes qui sont grands, qui sont beaux et qui sont traversants. Ça, on retrouve l'héritage aussi de l'unité d'habitation de Corbusier, le volume traversant avec l'appartement ouvert sur ces deux façades. Et pour ce qui est de l'esthétique, donc l'immeuble
ça interpelle en tout cas.
Oui, l'immeuble a énormément frappé les esprits, justement par cette esthétique industrielle. Jean Nouvel donc emploie du métal, du bardage en métal, Des caillebotis, emploi des portes de garage pour clore les appartements du côté des terrasses. Il y a une déclaration esthétique forte, en fait, une façon de démarquer, d'être un objet singulier. Et Jean Nouvel insiste, il est vrai aussi, sur le fait justement que c'est important d'offrir aux habitants, à chaque habitant, un immeuble qui soit reconnaissable, qui ne soit pas un immeuble lambda, qui soit son immeuble chez lui. Et je pense ça aussi, ça a beaucoup participé.
Nous sommes à côté de la reconstitution d'un appartement de la Cité Radieuse à Marseille, créé par Le Corbusier.
Ça nous ramène juste après la guerre. Elle est commandée en 1945, elle va être livrée en 1952. Et c'est un projet qui va marquer l'architecture, l'histoire de l'architecture, et l'architecture en France et à l'étranger. Alors, nous avons souhaité ici en galerie reconstituer un espace visitable. C'est le seul espace visitable. Il a été reconstitué avec 17 lycées professionnels de la région Île-de-France et l'aide de l'éducation nationale, de la direction régionale. Pourquoi elle a cette place dans la galerie? C'est parce qu'en fait, en travaillant l'unité d'habitation de Marseille, Le Corbusier travaille plusieurs questions. Il travaille la question de l'industrialisation du bâtiment. Il voulait que ce soit un bâtiment industrialisé, réduire les coûts, etc. On en a parlé. Il voulait travailler le rapport de l'immeuble dans la ville. L'unité est posée sur pilotis. Pour dégager le sol, Le Corbusier proposait en fait une plus grande densité, regrouper les habitants dans des immeubles de grande taille, donc comme celui-ci, et libérer toute la surface au sol. Il comparait en fait une cité-jardin verticale, l'unité d'habitation, à une cité-jardin horizontale, comme les cités-jardins composées de petites maisons. Et il montre comment, au lieu de répartir les petites maisons sur une parcelle, sur une très grande parcelle, et occuper tout le sol et en quelque sorte gâcher l'utilisation collective qui peut en être faite, lui, ce qu'il propose, c'est de regrouper les habitants en grands immeubles, d'avoir une grande surface dégagée, l'espace vert, dans lequel on implante les équipements sportifs, le soleil, les équipements, les crèches, les écoles. Enfin, c'est le principe de la ville qui fait table rase, de la ville moderne qui est posée là et qui va de la ville de la charte d'Athènes.
Est-ce qu'on n'avait pas encore dans les grandes barres d'immeubles jusqu'à présent, on n'avait pas encore justement, c'est ce que vous expliquez 5 minutes, 10 minutes auparavant, ces installations, ces commerces
C'est-à-dire qu'en fait là, on est avant tous les immeubles. Ça va annoncer en fait tous les immeubles de la c'est un immeuble de la reconstruction et ça va annoncer tous les grands ensembles. C'est-à-dire que ça va annoncer cet usage en fait de l'espace vert qui est peut-être mal interprété ultérieurement en faute d'argent, mais où finalement l'immeuble est posé sur sa pelouse et puis il n'y a rien autour. Ça c'est la version négative en fait de l'interprétation en fait qui est faite de l'unité de Marseille ou de Corbu. Dans l'esprit de Corbu, l'espace vert est un espace de qualité. C'est un espace qui est dessiné. C'est un espace dans lequel on met des équipements et ces équipements on ne va pas les retrouver ensuite lorsqu'on est sur les grands ensembles, pas nécessairement, ou pas nécessairement à leur place. Bon, il faut dire aussi autre chose, c'est que l'unité d'habitation à Marseille se veut un prototype. En fait, il est exceptionnel. Corbu a dépassé ses budgets. Il a fait un immeuble d'une très belle qualité et qui est en fait d'une qualité qui est supérieure aux standards que le ministère de la Reconstruction pourra utiliser ensuite. Donc, c'est un immeuble qui se voulait un prototype pour une production en grande série, pour une duplication en grande série. En réalité, il reste exceptionnel. Mais il pose cette question, posée par la Charte d'Athènes, du rapport à la ville, à l'espace vert. Il pose la question d'un immeuble ouvert sur le soleil, avec des appartements traversants, des loggias en fait, qui prolongent le logis, qui amènent l'air à l'intérieur de l'immeuble, et le soleil sur les deux façades. En fait. Il faut peut-être aussi rappeler que juste avant-guerre, en fait, les questions des hygiénistes sont encore assez importantes. Hein. Les luttes contre la tuberculose, tout ça, c'est très important encore. Donc, lorsqu'on sort de la guerre et qu'on a en fait des cités entières encore de taudis ou de gens qui ne sont pas logés, cet appartement SIF est quelque chose d'exceptionnel. Alors, ça prononce aussi toutes les réflexions de Corbu sur le logis de l'homme moderne. Le logis de l'homme moderne, pour Le Corbusier, l'homme moderne, finalement, est un homme assez dépouillé. Il n'a pas besoin de l'armoire de sa grand-mère, de l'armoire normande de sa grand-mère, tel qu'il est donc dessiné par Corbu, aménagé par Voujanski, par Perriand, par Prouvé. En fait, c'est un logement qui est extrêmement moderne pour nous aujourd'hui encore, hein, d'une certaine manière. là nous allons rentrer dedans. On entre et puis on a une cuisine à l'américaine qui, donc attendez, on est en 49-52.
Tout est meublé en fait déjà, est livré meublé.
Oui, toute une partie de l'appartement est livrée avec des éléments intégrés. Perriand et Corbu ont travaillé ces questions juste avant la guerre, ont présenté dans les différents salons avant-guerre, en fait, salon des arts décoratifs, des propositions de meubles intégrés. Mais c'est quand même dans les premières fois où, au niveau d'un logement social, il y a énormément de mobilier intégré. La cuisine est livrée avec ses placards, avec un meuble place-pas pour que la ménagère soit en contact avec sa famille qui est juste dans la salle commune. Cette salle commune est un duplex, en fait, est à double hauteur. Elle s'ouvre, en fait, par la loggia sur l'extérieur.
Pareil, aussi table en béton.
Oui, et puis aussi une petite banquette au-dessus des radiateurs sur lesquels les gens pouvaient s'asseoir. Cette salle commune, c'est le lieu de rencontre en fait de la famille. Si on peut se retrouver, on est parents et enfants aînés ici. Et si on veut en fait se séparer, alors on monte à l'étage, chacun dans ses quartiers. Par l'escalier ici, on peut passer à l'étage supérieur. Donc on a d'une part la chambre des parents qui est en mezzanine sur le séjour.
C'est pour une famille de 3, 4 enfants ?
Oui, c'était dans un logement comme celui-ci, avec deux chambres d'enfants. C'était pour une famille jusqu'à 4 enfants, puisqu'on mettait des lits superposés. Et dans la chambre des parents, ce qui est amusant aussi, c'est que parmi les mobiliers intégrés, on trouve la table allongée. Donc on est, enfin souvenez-vous, c'est le baby-boom qui arrive. Et donc en fait, le meuble intégré, c'est la table allongée, voilà. Ça c'est le quartier des parents avec la salle de bain. Et de l'autre côté, on a le quartier des enfants. Et en fait, les deux chambres des enfants sont parallèles. Le Corbusier a proposé... Elles sont assez étroites, hein, tout en longueur. C'est un volume très particulier. Et Corbu pose une cloison coulissante entre les deux chambres qui permet de les ouvrir. Voilà, comme ça. Qui permet de les ouvrir pour faire finalement une salle de jeu commune. Et lorsque les deux enfants veulent retrouver leur intimité, ils referment la cloison. Elle est noire, comme un tableau noir. On pouvait dessiner dessus à la craie.
Et l'espace habitable va de part et d'autre de l'immeuble.
Oui.
Du côté de la chambre des parents, on retrouve cette grande baie vitrée du duplex. Et de l'autre côté également, du côté de la chambre des enfants, également un balcon.
Et à Marseille, du coup, d'un côté, vous regardez la mer et de l'autre, en fait, l'arrière-pays.
Donc tout le monde avait vu sur la mer
Presque, en fait, presque tous les appartements. Et par contre, là, on est sur la partie, en fait, intérieure de l'immeuble, des appartements. Et ce qui est important, ce que ne montre pas ici la reconstitution, c'est qu'en fait, c'est un immeuble qui comprend aussi beaucoup de services intégrés.
Une épicerie.
Donc, alors, il y a effectivement toute une rue commerçante avec un hôtel, un centre commercial, une épicerie, une boulangerie, il y avait un bureau de poste. Ça, c'est pour les commerces. Et en partie haute, sur la toiture, on a un gymnase, un terrain de sport, une maternelle, une crèche, donc des équipements, on va dire, sociaux, en fait. Et tout ça dans le même immeuble. Et voyez pourquoi, en fait, on revient à cette idée de l'immeuble autonome qui aurait tous ses services. Mais cette idée, cette belle idée-là, qui est très riche, va finalement être assez peu poursuivie. On la retrouve peut-être dans certaines opérations récentes, comme celle de Massimiliano Fuxas, là, sur l'îlot 50, que l'on montre aussi en galerie, où, en fait, là, l'opération intégrée à la fois de l'habitation, un gymnase, différents équipements sportifs. Mais c'est vrai que l'unité d'habitation reste quelque chose d'exceptionnel, en fait, hein, dans l'histoire de l'architecture.
Et justement, donc, on pouvait faire sa vie dans cet immeuble, puisque il y avait commerce, une crèche maternelle à proximité. On pouvait vraiment ne pas sortir de cet espace.
Oui, enfin, à Marseille, à mon avis, il fait tellement beau qu'on doit sortir assez souvent.
Eh bien, merci Corinne Bélier de nous avoir donné autant d'explications à partir donc de cette thématique de l'habitat, ici à la Cité de l'Architecture. Nous invitons les auditeurs, internautes, à venir à la Cité de l'Architecture, ici à Paris, Cité Chaillot. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.